6h04, jeudi 22 avril. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM avec un ciel partiellement nuageux, pas très chaud ce matin, autour de moins 3 degrés. Et on prévoit encore pour la journée, pour la matinée, le début de l'après-midi, 60 % de probabilité d'averse de neige, des vents de 30 à 50 km heure et le maximum aujourd'hui, on va se contenter d'un 4 degrés. Ce soir et cette nuit, nuageux, venteux, avec un minimum de seulement 2 degrés. Et vendredi, pour terminer la semaine, bouffée de chaleur, un peu de lumière, du soleil 13 degrés. Puis samedi, on en profite vraiment. C'est du soleil 18, alors que dimanche, on prévoit de la pluie, une bonne partie de la journée, puis bonne quantité à part ça, autour de 17 degrés. Puis ce sera le retour du soleil lundi prochain, avec 11 degrés. Bon, parlons du variant indien. C'est tombé hier et c'est sûr que les gens font une série d'équations. Tu regardes la situation en Inde, c'est une explosion de cas. Le service de santé est non seulement sous pression, il est en train de craquer. Je voyais ce matin qu'on achète médicaments, oxygène sur le marché noir. Et là, tu vois tous ces cas et tu te dis, mais ça doit être épouvantable. Alors, ce matin, ce qu'on peut dire, et on va le préciser plus tard avec le Dr Weiss, c'est qu'il est encore trop tôt. C'est un variant différent. C'est un variant qui est évidemment extrêmement contagieux. On se demande quelle a été la chaîne, là, comment ce variant indien, on a vu les cas en Colombie-Britannique, mais comment ça a pu arriver en Haute-Mauricie. On croit comprendre que c'est quelqu'un qui déjà avait été infecté par le virus. Donc, c'est un virus différent. Et est-ce que ça veut dire que c'est un virus qui pourrait causer des dommages importants? Alors, les experts semblent dire, pour le moment, que situation sous contrôle, on analyse, et la question, est-ce que le vaccin ou les vaccins qu'on connaît fonctionnent, sont efficaces contre ce variant? Il est trop tôt pour y répondre de façon formelle. Quand vous regardez un peu ce qui s'est vécu en France, en Europe, je devrais dire, aux États-Unis, je pense que la prudence est de mise. On ne peut pas tirer de conclusion, dire il fonctionne à tel pourcentage ou il fonctionne moins bien. Il doit avoir un effet. Mais jusqu'à quel point, comme c'est un nouveau variant, disons que c'est un peu trop rapide pour tirer des conclusions. Donc, c'est un premier cas. Je vous parlais d'autres cas en Colombie-Britannique. Mais c'est sûr que ce cas au Québec, ces cas au Canada et ailleurs dans le monde suscitent quand même beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Je vous le disais, en Inde, là, on rapporte 300 000 cas de COVID. Là, je comprends que la population, c'est plus d'un milliard, c'est énorme. Là, mais c'est quand même là, des cas nombreux et qui sont extrêmement stressants. Et quand vous regardez, par exemple, des articles, je vous cite Le Monde ce matin, la peur s'est emparée des habitants de Delhi, peur d'attraper un virus qui fait des dégâts considérables, fauche jeunes et personnes âgées, peur pour les proches, les amis qui cherchent désespérément depuis plusieurs jours un lit aux soins intensifs dans un hôpital. Certaines familles de malades désemparés vont chercher des médicaments à des prix exorbitants sur le marché noir et la capitale indienne manque de tout. Les SOS submergent les réseaux sociaux par cette espèce de phrase « Please help ». Alors, tu regardes, puis quand vous voyez le tableau là, en Inde, tu dis « Wow, si ça débarque ici, on se retrouve dans quelle situation? » Donc, pour l'instant, on observe, on tente de retracer un peu l'origine de ce variant au Québec, puis on verra pour ce qui est de l'efficacité des vaccins. Par contre, se pose la fameuse question qui revient tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait avec les vols? Je vais vous dire que hier, je me suis amusé, hier après-midi, à aller voir les vols Canada-Inde là, à travers les grands aéroports canadiens. Chose certaine, il y en a chaque jour, de façon régulière, depuis plusieurs semaines, des dizaines de vols au total. Puis quand vous allez sur le site de Santé Canada, vous êtes capable de voir les vols qui sont arrivés avec, bien sûr, la provenance, destination, l'aéroport au Canada, et les cas COVID à l'intérieur de l'avion parce que les gens sont testés. Ça, c'est l'argument de M. Trudeau. C'est de dire, bien, on teste, on place en quarantaine, donc le risque, on est le pays qui contrôle le plus, puis le risque est bon. Bien, sur des vols, là, puis vous retrouvez d'ailleurs ce tableau dans le Journal de Montréal ce matin, vous avez des cas de Air India, Delhi, Toronto, rangés affectés par des cas de COVID de 41 à 47. Un autre vol vers Vancouver de 15 à 21, 44 à 53. Fait que tu as des cas de COVID détectés dans l'avion. Allez-vous stopper les vols entre l'Inde et le Canada? Réponse en soirée hier. On est en train de réfléchir à ça. C'est pas le cas. On pense que les mesures vont faire l'affaire et qu'il y a un impact économique trop grand. Je rappelle qu'on fabrique des vaccins en Inde aussi, là, qu'on livre au Canada, le fameux vaccin Covishield. Alors, est-ce que Trudeau, qui a toujours été très, très frileux à fermer les frontières, à restreindre, là, même s'il met des conditions, pas l'impression qu'il va le faire. Et d'ailleurs, si vous voulez sourire un peu ce matin, le Journal de Montréal a décidé de se payer un pique-nique à la une en disant, et je vais reprendre ça exactement, là, le variant de l'Inde est arrivé. Alors, Justin, est-ce qu'on coupe rapidement les liens avec l'Inde cette fois-ci? Et qu'est-ce qu'on a comme photo? Une photo de Justin avec ses vêtements, je dirais, folkloriques, lors de son fameux voyage en Inde. On se souvient, là, avec sa femme, ses enfants, devant le Taj Mahal et tout ça. Fait que là, il est en prière, la petite tunique, puis l'espèce de truc sur la tête, orange. Tu sais, ça fait vraiment tabloïd. On voit ça souvent. Tu sais, c'est rare que les journaux vont interpeller le premier ministre par le prénom. Le journal se tape ça ce matin. C'est quand même quelque chose. Pour ce qui est de la vaccination, ça va bien. Je pense qu'on a vu hier que, dans le cas de l'AstraZeneca, en ouvrant 45 ans et plus, les gens ont décidé d'y aller. Est-ce qu'il y aura autant d'affluence? En tout cas, il y a beaucoup de prises de rendez-vous. Il y a comme, on verra les chiffres, là, mais j'ai l'impression qu'on assiste peut-être ces jours-ci aux meilleures performances de vaccination. C'est toujours plus tranquille la fin de semaine. Et les gens se posent tout le temps la question, il arrive quoi en fin de journée ou en mi-journée quand on se rend compte qu'il y a des doses qui ne sont pas utilisées? On le sait depuis le début, ça varie un peu d'un 6 à l'autre, là. Mais il y a des listes de rappels. Donc, il y a des gens qui se font téléphoner, des gens qui sont, par exemple, des policiers, services essentiels. Et bref, il y a de la vaccination qui se fait. Je sais que pour les 45 ans qui tentaient de prendre un rendez-vous hier par la plateforme Clic Santé, ça semblait pas possible, en tout cas. Je ne suis pas allé vérifier ce matin, là, mais ça semblait plutôt difficile. Là, sans rendez-vous, il n'y a pas de problème, là. Mais la plateforme prenez des rendez-vous pour les gens de 60 ans ou les gens de services essentiels ou des trucs comme ça. Premier constat qu'on peut faire. Le deuxième constat, dans The Gazette ce matin, il y a des experts qui disent que Québec n'aura pas le choix, ça avait été lancé, là, de pour la deuxième dose, de prendre un autre fabricant. Si on a, par exemple, quelqu'un qui a reçu Moderna, mais que Moderna qui a ralenti ses livraisons, puis qu'on a plus de Pfizer, ben, c'est peut-être préférable d'y aller avec Pfizer pour immuniser de façon adéquate les premières personnes qui ont été vaccinées. Alors, probablement qu'on s'en va vers ça. Dr Weiss dit attention, il ne faut pas tirer de conclusions trop rapides non plus. Les études internationales restent à voir. Mais il y a des experts qui pensent que c'est peut-être l'option qu'il faut envisager. L'autre chose dont je vais vous parler ce matin, je trouvais ça dans la presse. On sait que les sondages sont nombreux, là. On multiplie les sondages pour savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous pensez, puis quel est l'état d'esprit du bon peuple. Tout ça pour faire passer le message. D'abord, on apprend que, c'est ce qu'ils disent, 35 % des Québécois ont admis avoir visité ou reçu à la maison des membres de leur famille ou des amis au moins une fois dans la semaine qui a précédé le sondage. On comprend là, que ça ne veut pas dire un repas nécessairement, mais quelqu'un est passé, quelqu'un est peut-être à l'extérieur, peut-être à l'intérieur, mais que bref, 35 % des Québécois l'ont fait. Quand on regarde les plus jeunes, 18 à 24 ans, c'est sûr, c'est 44 % puis c'est 42 % chez les 25-44. Il semble que c'est la première fois d'ailleurs qu'on posait comme ça directement la question. Pour ce qui est du couvre-feu, il semble que l'adhésion est encore là, c'est-à-dire que les gens sont relativement d'accord. 73 % sont favorables au maintien du couvre-feu pour les prochaines semaines. Puis je répète, là, quand tu ne sors pas puis quand tu n'as pas envie de sortir, c'est pas une grosse frustration. Quand tu es plus jeune, puis que tu as envie d'aller en voir d'autres, ben là, c'est autre chose. C'est sûr que les plus jeunes, c'est plus frustrant. 67 % des répondants sont en désaccord avec l'idée que les médias et les gouvernements exagèrent par rapport à la COVID. Puis les adeptes, disons, de différentes théories, là, pas nécessairement des complotistes, là, mais des gens qui, disons, adhèrent parfois à un certain courant qui s'exprime violemment sur les réseaux sociaux, là, avec un fiel assez incontrôlable, ben on pense que c'est autour de 20 % 20 % des gens là, qui ont, disons, décroché d'autres théories. Puis là, il y a un noyau encore plus serré. Mais là, on est dans le délire complet. Puis j'en reçois de temps en temps, là. J'ose pas en parler trop souvent en onde, mais c'est du délire. Je veux dire, il y a quelque chose de profondément malade. C'est des gens qui sont en détresse, c'est clair, là. Pour croire des affaires de même, là, il est arrivé quelque chose dans ta vie parce que ça n'a pas de maudit bon sens. Bien, je vais attirer votre attention sur une nouvelle forme d'extorsion auprès des jeunes. Et c'est le concept qu'on connaît, là, sextorsion. Et vous le savez, on a souvent, tu sais, des jeunes filles, par exemple, qui se font solliciter pour poser à moitié nue, totalement nue, une partie du corps. Puis là, elles embarquent dans ça, envoient les photos. Puis après ça, il y a des menaces, puis il y a du chantage, puis des gars aussi. Des gars aussi qui se font carrément arnaquer. Là, ce qui est différent, ce qui est encore plus tordu, c'est qu'on se rend compte. Il y a quelques cas, là, ça commence, mais je pense que c'est important de le mentionner. C'est que les gens vont superposer des visages de jeunes sur des vidéos ou des photos pour faire croire que c'est une telle qui se livre à telle activité sexuelle. C'est son visage, mais on connaît les capacités, disons, de logiciels pour rendre ça très crédible. Donc, on envoie ça à quelqu'un pour dire, regarde, voici ce qu'on a comme photo de toi, puis comme vidéo avec toi. Puis tu dis, ben c'est pas moi. Ben les gens vont penser que c'est toi. Donc, on tente d'obtenir des montants d'argent. Ou encore, ce qu'on cherche à faire, c'est d'obtenir du matériel inédit de pornographie qui implique les enfants. Et je vais parler avec René Morin, qui est du Centre canadien de protection de l'enfance, un peu plus tôt. Je pense que les propos de Laurent Jalbert font le tour beaucoup depuis qu'elle a publié hier sur Facebook son parcours de la dernière année, puis en même temps, je dirais, sa vie d'une dizaine d'années, où elle parle de la violence qu'elle a subie, violence psychologique. Ce que vous allez lire, vous allez vous reconnaître si vous êtes passé par là, c'est-à-dire l'isolement, l'espèce de détresse d'être avec quelqu'un qui, en apparence, est très gentil, très fin. L'homme qui te dit un jour, je vais te protéger, t'as assez souffert dans ta vie, t'as eu assez de problèmes, pas assez d'épreuves, ben moi, je suis là pour toi. Pis... Et dans les faits, c'est pas ça qui arrive. Puis dans les faits, c'est cette violence psychologique. Puis je le sais qu'il y a des gars qui vivent de la violence psychologique aussi, là. Mais dans le cas de Laurent Jalbert, c'est... Là où c'est intéressant, c'est qu'elle dit que la pandémie a joué un rôle, tu sais, cet isolement, là, l'a amené. Elle écoutait le téléjournal avec Patrice Roy, puis qu'elle a vu cette pub, puis ça a fait comme un déclic dans sa tête, puis elle a dit, moi, je sors de ça. Puis elle a appelé pour aller chercher de l'aide. Alors, vous allez trouver ce témoignage dans les journaux ce matin, puis aussi sur Facebook. Je pense que ça vaut la peine d'être lu et partagé. Bon, souvenez-vous quand le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec nous a parlé de l'orchestrateur, M. Godin. Cette espèce de plateforme qui devait servir à regrouper tous les rendez-vous. Puis tu sais, là, cette espèce de rêve au Québec qu'on n'est jamais capable de faire atterrir, là, d'avoir un système qui fait que tu prends un rendez-vous pour aller voir un médecin. Ça, on n'est pas capable, nous autres, d'organiser ça pour toutes sortes de raisons. On sait que Québec a donné un contrat à une compagnie qui s'appelle PetalMD qui peut amener jusqu'à à peu près 36 millions de revenus. Charles Sirois est un des investisseurs au départ, puis encore des actions. Sirois, c'est le grand chum de François Legault, qui a créé la CAQ avec François Legault. Donc, c'est un contrat qui a été donné, bang, pendant la pandémie, pas d'appel d'offres. Tout ça, on a dit, c'est une situation d'urgence. Et le Journal de Montréal nous dit ce matin, donc, que le gouvernement avait octroyé l'été dernier ce mandat à la compagnie en question. Nous, on a fouillé ça. Ça fait déjà plusieurs semaines. Parce que quand M. Godin m'a parlé de l'orchestrateur, ma première question, c'est quoi ça, puis ça marche-tu? Ce qu'on découvre, chers amis, il y a la technologie, puis il y a la volonté d'un bord. Puis de l'autre bord, la résistance des médecins. Il y a beaucoup de médecins qui ne veulent pas embarquer pour toutes sortes de raisons. Le premier volet de la, ce qu'on appelait Rendez-vous Québec, là, Rendez-vous Santé, là, qui permettait au gouvernement de savoir les plages disponibles. Le médecin, il travaille-tu, il ne travaille pas, il voit-tu des patients, il n'en voit pas, puis etc. Les médecins ne voulaient rien savoir de ça. Alors, ce matin, dans le journal, on dit que 80 cliniques embarquent. Juste vous rappeler qu'il y en a 1300 au Québec. Et il y en a qui ont signé une lettre d'entente pour se brancher à l'orchestrateur depuis décembre 2020. Et ce qu'on constate actuellement, là, ce qu'on entend, c'est que l'orchestrateur de Pétal MD n'a pas été capable de connecter l'orchestrateur à la plateforme de rendez-vous en ligne qui existe. Ça, c'est rendez-vous version 1. Puis là, c'est déjà l'interne qui nous dit ça, là. Et pourquoi, on ne le sait pas trop. Fait que là, ils ont amené une autre plateforme qui s'appelle la version 2. On est dans la haute compétence technologique, là. La nouvelle plateforme offre moins de fonctionnalités que la première version. Ils sont tout mêlés dans leur flûte. Est-ce que c'est un problème technologique? Est-ce que c'est pétale? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a une résistance de beaucoup de médecins. T'as 1300 cliniques, puis les médecins, puis dans certains cas, ils ont raison, les médecins, les gestionnaires ne sont pas satisfaits. Ils disent que c'est un système tout croche. Puis là, ils sont tannés. Alors, vous pourrez lire ça dans le Journal de Montréal ce matin. Rapidement, la pénurie d'enseignants est tellement forte que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, autorise l'Université de Montréal à offrir une nouvelle maîtrise en enseignement préscolaire et primaire, malgré l'avis défavorable d'un comité d'experts. Bon, vous résumez ce qui est en train de se passer. Puis c'est vrai, à la DPJ, là, puis ça commence à être vrai en éducation. Tu n'arrives pas à trouver les enseignants ou les intervenants, quand je parle de la DPJ, avec les critères. Réaction, baisse les critères pour essayer de trouver du monde. Je reçois des affichages de postes de la DPJ, là. Je vous dis pas que ça fait pas des gens compétents. Je vous dis juste qu'on n'a plus tout à fait les mêmes critères. Puis en enseignement, c'est la même chose, malgré, dans le cas du ministre Roberge, un avis d'un comité scientifique. Il fait vers une maîtrise en éducation préscolaire et primaire de 60 crédits, ce qui est à peu près donc la moitié d'un bac de 4 ans et qui permet d'aller enseigner. Puis là, on dit, ben voilà, des enseignants pas assez formés. Mais en même temps, t'en as pas d'enseignants. Fait que comment tu combles les postes? Alors, tu joues, puis là, vous allez me dire, ouais, mais donner des conditions de travail, ça est vrai. Les meilleurs salaires, tout ça est vrai. Mais en attendant, comment tu arrives à recruter des gens? Puis à la DPJ, je vous le dis, on est en train de voir le même phénomène. Et juste un mot, je vais revenir sur ce qui se passe aux États-Unis, cette adolescente qui a été abattue par la police à Columbus, Ohio. On a vu les images, puis différents angles à part ça. On n'est pas dans le, comme disait l'autre, là, c'est pas une vidéo de 10 minutes où quelqu'un agonise, là. Ça dure quelques secondes seulement. C'est une jeune fille. Ils ont un appel au 911. La police arrive. Policier qui débarque. C'est sa caméra là, sur lui corporelle qu'on voit puis qui demande aux gens de se calmer. Il y a plusieurs personnes à l'extérieur. Il y a une fille qui s'en vient en courant. Elle trébuche. Il y en a une autre qui s'en vient qui est comme à côté sur un véhicule. Et vous voyez l'adolescente qui a visiblement un couteau à la main puis qui s'élance pour la frapper. Et c'est à ce moment-là que le policier tire 4 projectiles. On comprend qu'elle aurait pas dû mourir, que c'est épouvantable, mais c'était elle ou l'autre adolescente. Puis là, c'est pas le temps de sortir le taser, là. Alors là, il y a une enquête, c'est sûr, là, mais quand vous regardez les premières images, autant dans le cas de Floyd, tu dis ça n'a aucun sens, là, bien, le policier a choisi, il a protégé cette jeune fille qui est en train de se faire attaquer. 6h24. La métropolitaine, monsieur.